Alors, on a vu la semaine dernière cette question de la liberté chrétienne, donc traitée à partir du chapitre 8 d'1 Corinthiens 8, 9, 10. On a vu que la liberté chrétienne était subordonnée à l'amour. On a vu également que la liberté chrétienne, donc la liberté d'une personne, eh bien, ne change pas sa spiritualité. On n'est pas moins spirituel si on est moins libre de faire certaines choses. On a vu aussi que notre liberté chrétienne ne devrait pas être une occasion de chute pour notre frère ou notre sœur, et que l'amour pour Dieu et l'amour pour mes frères et sœurs devrait m'amener à renoncer même à ma liberté si c'est nécessaire. Paul va continuer maintenant au chapitre 9 en restant dans ce même sujet de la liberté, mais il va en faire une application à sa personne. Et le but de Paul, maintenant, c'est de leur montrer que la liberté, bien que précieuse, n'est pas sacrée au point qu'on ne puisse pas la sacrifier. Oui, on peut sacrifier sa liberté chrétienne, il va nous le montrer. On est libre, mais parfois il y a des causes qui sont plus élevées, plus belles, plus grandes, qui nous amènent à dire, ben voilà, je sacrifie cela. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et que celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Quand on lit la première lettre aux Corinthiens, et puis après on lit même la deuxième lettre aux Corinthiens, on comprend que Paul n'avait pas que des amis à Corinthe. Il y avait aussi des personnes qui lui en voulaient et qui critiquaient son apostolat ou son ministère en tant que pasteur, évangéliste, serviteur de Dieu. Et dans ce chapitre, Paul rétablit un peu la vérité. Alors il commence en disant, versets 1 à 3, « Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. » Et il le dit, « N'ai-je pas vu le Seigneur ?» Parce que pour être apôtre, une des conditions, c'était d'avoir vu le Seigneur ressuscité. Et même si Paul n'était pas parmi les 11 qui ont vu au départ le Seigneur ressuscité, après, eh bien, Dieu lui a fait la grâce d'avoir cette révélation, Jésus qui se présente devant lui sur le chemin de Damas, il en tombe de son cheval, et là, il voit le Seigneur Jésus, ce qui est ici le sceau à son apostolat. C'était son témoignage, son appel, et il était vraiment apôtre. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les autres apôtres reconnaissent que, eh bien, il était parmi eux, en fait. Hein. Il était un des leurs. Mais il y avait certains qui ne le voyaient pas de cet œil. Hein. Ils critiquaient l'apôtre Paul. Et il dit, mais ce qui authentifie le plus mon ministère d'apôtre, mais c'était le fruit. C'était les Corinthiens eux-mêmes. Et chaque fois que Paul allait dans une ville, il plantait une église presque, et puis il y avait des croyants, et puis il allait ailleurs. Et ça, c'était la preuve de son ministère et de son apostolat. C'était sa défense. Et en même temps que Paul défend son apostolat, il va nous enseigner qu'on peut, et que même parfois, c'est nécessaire de renoncer à une liberté ou à des droits que l'on a, qui sont légitimes. Alors, il revendique ici trois droits. Le droit de manger ou boire ce que l'on veut. Le droit de ne pas, de se marier si l'on veut. Et puis, le droit de ne pas travailler pour servir Christ et ne faire que cela, en fait, servir Jésus-Christ. Et Paul, donc, met beaucoup l'accent sur ce dernier point, le fait de ne pas travailler dans le monde, mais de travailler uniquement pour l'œuvre de Dieu. Et on devine que c'était probablement un des reproches que l'on faisait. « Ah, mais eux, ils ne travaillent pas. Hein. Regardez, ils se baladent sur les routes. Hein. Ils n'ont pas un travail. Hein, et ça, ce n'est pas bien. » Alors, Paul va argumenter sur sa liberté de servir Christ, de ne pas travailler, et même d'aller de ville en village et d'annoncer l'Évangile. Et il va s'appuyer sur des exemples de la vie courante. Donc, il dit, mais quel est le soldat qui est embauché à ses propres frais ? Toute armée qui embauche des soldats, elle pourvoit aux besoins de ses soldats. Ensuite, il dit, mais quel est le vigneron qui a une vigne et qui ne profite pas de sa vendange ? Évident, il mange du fruit, il peut en profiter. Et puis, il cite encore cet exemple d'un berger qui ne se nourrirait pas du lait du troupeau. Non, il se nourrit du lait du troupeau, il peut en bénéficier. Et puis, il va plus loin. Il dit, mais est-ce que ça c'est que dans les usages des hommes ? Est-ce que Dieu ne le dit pas aussi ? Et là, il va citer une parole de l'Ancien Testament, du Deutéronome. Il dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Autrement dit, quand le bœuf est en train d'écraser le grain comme ça, on lui enlève la muselière pour qu'il puisse se nourrir du grain qu'il est même en train de fouler. Et Paul l'applique aux hommes. Il dit, mais en fait, Dieu nous enseigne quelque chose. Il dit, mais que celui qui travaille, il a le droit de profiter aussi du travail qu'il fait. Et puis, il va donner un autre argument encore. C'est le fait qu'il y a un échange entre serviteurs et puis entre le peuple de Dieu. Il dit, mais les serviteurs donnent les biens spirituels. Le peuple de Dieu donne les biens matériels, pourvoit à leurs besoins. Et il y a une réciprocité, il y a un échange entre les deux. Et Paul nourrissait les Corinthiens avec des épîtres, avec la parole, avec l'enseignement, avec tout cela, des exhortations. Et en échange, il dit que c'était normal d'attendre d'eux des biens temporels, des dons, un salaire, quelque chose, pour vivre. Et puis Paul enfonce encore plus le clou, il dit c'est un commandement du Seigneur. Donc il cite une parole, enfin il cite pas la parole, mais il fait allusion à une parole des évangiles. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit « Mangez et buvez de tout ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. » Voilà. Et puis, un petit peu plus loin, un dernier exemple, comme quoi vraiment, c'était même pas la peine d'argumenter sur ce point. Il cite l'exemple des Lévites. Il dit que bien, les Lévites servaient dans le temple et ils pouvaient se nourrir de toutes les offrandes, en fait, hein, même des sacrifices, certains sacrifices qui étaient faits à Dieu. Eh bien, voilà, c'était offert, sacrifié, mais la viande revenait aux Lévites qui pouvaient la manger. Ensuite, il y avait toutes les dîmes du blé, du mou, de toutes les céréales. Ils recevaient les dîmes, donc ils avaient tout ce qu'il faut pour vivre. Donc, avec toute cette liste d'arguments, c'est évident, c'est clair, c'est normal de recevoir des biens matériels, un salaire, en échange des biens spirituels, c'est légitime. Mais regardez ce que dit Paul. Il dit verset 12, d'abord, il dit « Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. » Et puis ensuite, versets 15 à 18, il ajoute « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. » Et là, on revient au sujet de cette section de l'Épître aux Corinthiens, donc ces trois chapitres, qui est la liberté en Christ. Paul avait la liberté d'attendre quelque chose des Corinthiens pour qu'ils subviennent à ses besoins. C'était sa liberté de ne pas travailler, si ce n'est en servant le Seigneur. C'était un droit légitime. Mais ici, que fait-il ? En fait, il renonce à ce droit. Il ne réclame rien pour lui-même, réclame rien de quiconque. Et c'est intéressant de voir que c'est précisément à Corinthe que l'apôtre Paul s'est mis à faire des tentes, où il a travaillé avec Priscille et Aquila. C'est justement là, dans cette ville, où il s'est assis et il a fait ses tentes. Ça ne l'empêchait pas à côté d'aller évangéliser. Hein. Il était à la synagogue en même temps, il allait prêcher à la synagogue, et puis il revenait avec Priscille et Aquila, il s'asseyait, il faisait ses tentes. Et donc, les Corinthiens devaient se souvenir de cet apôtre qui travaillait dans la vie et en même temps qui travaillait pour servir le Seigneur. D'ailleurs, on se demande, mais comment se pouvait-il qu'on lui reproche de ne pas travailler alors qu'à Corinthe, justement, eh bien, il n'avait rien demandé à personne. Et donc, il dépendait de personne. Et le chrétien, il a des droits, comme ceux que Paul nous cite, le droit de manger ce qu'il veut, le droit de se marier, le droit de ne pas travailler si Dieu l'appelle à servir le Seigneur. Et puis, il y a d'autres droits en Christ, hein, on pourrait faire une liste. Mais Paul enseigne que le chrétien peut aussi renoncer à ses droits, et c'est vraiment ce qu'il veut qu'on comprenne dans ce passage. Mais pourquoi renoncer à ses droits ? Pour quel but ? Alors, eh bien, il explique dans la suite du chapitre, regardez verset 19. Il dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Et là, on a une cause plus élevée, en fait, hein, qui permet de renoncer à ses droits, c'est l'idée du royaume de Dieu, c'est de travailler pour le ciel, de vouloir que les choses de Dieu avancent, que, voilà, que Dieu règne, que l'évangile progresse, que les chrétiens soient enseignés, que, voilà, que l'œuvre de Dieu avance pour sa gloire. Ça, c'est une cause qui est plus grande, qui est plus élevée, même qu'une liberté ou qu'un droit. Et on voit beaucoup de missionnaires vivre dans des souffrances en partant à l'autre bout du monde. Ils sacrifient leur famille, qu'ils revoient tous les 3, 4, 6 ans, parfois 10 ans, donc vraiment loin. Parfois leur confort de se retrouver dans une autre culture, carrément, où on peut avoir le sentiment d'être incompris. Hein. Vous savez, il y a des chocs culturels pour les missionnaires. À chaque fois, toujours, il y a des chocs culturels. Pourquoi partir ? Ils naissent, par exemple, dans un pays riche où ils ont tout. Et voilà, Dieu leur a fait la grâce de naître là. Ils ont le confort, ils ont l'abondance, tout va bien. Ils ont la liberté de rester. Pourquoi partir ? Ils partent parce que, eh bien, il y a une cause qui est plus grande, qui est plus élevée, qui est plus noble. Et peut-être que nous, on peut se dire ici, et vous pouvez vous dire, mais en quoi ça me concerne moi ? Moi, je ne suis pas allé appelé à partir dans une île pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Mais renoncer à ses libertés ou renoncer à ses droits, c'est valable pour tous les enfants de Dieu, partout, sur toute la terre. Et si Dieu nous a laissé la lettre aux Corinthiens, cette première épître, c'est pour qu'on en tire une application que l'on fasse à nous-mêmes et à notre vie. Alors oui, je ne pars pas pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, hein, ou je ne pars pas pour l'Afrique. Il y en a qui ont vraiment un cœur de partir pour l'Afrique. Et voilà, ils y vont, hein, et puis ils se retrouvent à vivre des choses que peut-être moi, je n'arriverai pas à vivre. Hein. C'est possible, je ne sais pas. Mais si moi je reste ici, je suis libre de, par exemple, dépenser mon salaire comme je l'entends. Je vais par exemple donner personnellement quelque chose au Seigneur chaque mois, mais je pourrais très bien me dire, bon après, c'est bon, je fais ce que je veux avec ce qui me reste. Hein? Je le dépense comme je veux, je suis libre. Donc si j'ai envie de m'acheter la dernière tablette extra fine, super, ou le dernier parfum qui vient de sortir d'une grande marque, je ne citerai pas de marque, hein, je suis libre. Et c'est vrai, je suis libre, on est libre, on peut faire ce que l'on veut. Mais on peut aussi renoncer à certaines libertés. Et certaines personnes, eh bien, font le choix de renoncer à certaines libertés qu'elles ont. Parfois, on renonce à notre liberté par choix, parce que, eh bien, on voit quelque chose qui est plus grand, qui est plus élevé. C'est ce que font tous les parents responsables et qui aiment leurs enfants. Si vous avez eu des enfants, vous en avez, vous savez, hein, on n'arrête pas. Non, parce que ben, y a plutôt ça pour mes enfants. Et pourquoi ? Parce que mes enfants, eh bien, passent au-dessus de nous-mêmes. Ils passent toujours au-dessus de nous-mêmes. Alors, eh bien, non, mais mes enfants, oui. Donc, on le fait, ça, on le fait. Et Paul attire notre attention sur la cause de Christ, sur le salut des âmes, sur l'œuvre de Dieu. Il dit, regardez cette cause-là. Est-ce que cette cause, elle vaut pas la peine ? Lui, il l'avait choisi. Il avait regardé la cause de Christ, il a dit, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Comme par exemple, le fait de ne pas manger un bon morceau de viande, comme à son époque, hein. Et parfois, quelqu'un qui aime la viande, hein, il y a des bonnes viandes, hein, c'est appréciable, c'est un petit plaisir. Hein. Ben voilà, dire, ah non, là je vais sacrifier ce petit plaisir qui n'est rien du tout, hein, c'est rien du tout. Je vais le sacrifier parce qu'il y a un bien plus grand. C'est mon frère, ma sœur qui pourrait être choqué parce que cette viande, elle a été sacrifiée à des idoles. Et donc non, c'est pas grave, je mangerai de la viande plus tard, hein, si Dieu le veut. Donc, sacrifier des petits plaisirs ou parfois des choses plus grandes parce que, eh bien, on vise quelque chose qui est plus élevé. Et ça, c'est ce que Dieu veut que nous comprenions. La vie chrétienne accorde plein de libertés, plein de, même de droits. Hein, et en France, on aime parler de nos droits. hein, le droit de ceci, le droit de cela. Mais on peut aussi y renoncer, décider d'y renoncer. Regardez versets 20 à 23. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Parfois, en faisant des recherches, je tombe sur un forum. Il y a plein de forums, de sites plutôt chrétiens, hein, où des chrétiens s'expriment. Et donc, ça m'arrive de lire un sujet et puis une liste, la liste des réponses des différents chrétiens en dessous. Et parfois, je suis choqué de voir comment la liberté, elle est vraiment mise en avant. Notre liberté, j'ai le droit ou je suis libre de faire. Alors peut-être, c'est vrai que parfois, certains chrétiens ont été brutalisés, hein, peut-être à cause du légalisme, à cause de certaines choses. Mais en lisant tout ça, je me disais, mais est-ce qu'on s'impose encore certaines choses dans une société où le plaisir prime sur le renoncement, où l'amour de soi prime sur l'amour du prochain, est-ce qu'on s'impose encore des restrictions, des limites, des freins, disant non, 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 je vais me priver de ça. D'après les conversations, enfin, c'est les sujets qui sont traités que j'ai lus, il y a quand même pas mal de chrétiens qui s'imposent plus grand-chose. Et hop, on fait sauter les verrous et... Non, on est libre en Jésus-Christ. On fait... Voilà, c'est la liberté. Mais Paul nous montre que, eh bien, voilà, on peut renoncer à certaines de ces libertés. Et c'est bien, parfois, de le faire. Ça glorifie le Seigneur et c'est ce qu'il nous demande. Quand Paul était avec un juif sous la loi, eh bien, il se conformait à la loi pour ne pas choquer ce juif, même s'il n'était pas sous la loi. On a un exemple avec ces quatre hommes, vous savez, dans le livre des Actes, qui avaient fait un vœu à l'Éternel. Et Jacques et les disciples lui ont dit, ben, ce serait bien que peut-être tu pourvoies leurs besoins pour ce vœu, pour qu'ils se rasent la tête. Comme ça, les Juifs verront que tu respectes la loi. Paul a pris sa bourse, il a payé de sa poche. Il n'était pas obligé, hein. Mais il l'a fait, il l'a fait. Quand il était avec des païens sans loi, dans la mesure où il n'était pas en train de commettre un péché, eh bien, voilà, il pouvait être comme sans loi. Je m'imaginais Paul un jour de sabbat, et puis il voit des païens qui sont en train de faire quelque chose, porter une charge lourde ou je ne sais pas quoi. Paul, s'il n'était pas avec des juifs, il pouvait prendre même un jour de sabbat. Hein, parce que pour eux, c'était travailler que de porter quelque chose un jour de sabbat. S'il était avec des végétariens, pas de problème. Il mangeait des légumes. Il se mettait dans le moule. Sa devise, c'était se faire tout à tous afin d'en sauver quelques-uns. Ça fait penser à Hudson Taylor, missionnaire en Chine. Vous savez, tous les missionnaires étaient sur les bords, la Chine en fait, sur la côte, parce que c'était facile. On arrivait par bateau, il y avait toutes les villes côtières, il y avait tout le confort, la sécurité, et personne ne voulait rentrer à l'intérieur de la Chine. Et Hudson Taylor s'est dit, mais non, il faut aller à l'intérieur. Et lui, il est parti, hein, en se privant de la sécurité, en se privant du confort. Voilà, il a sacrifié plein de choses, il a... troqué sa tunique anglaise pour une tunique de chinois. Et puis voilà, il s'est laissé pousser les cheveux pour se faire une nappe. Et puis il est parti à l'intérieur de la Chine. Et la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Est-ce que je suis encore capable de renoncer à une liberté, à un droit, pour une cause qui est plus grande? Que ce soit un petit plaisir ou quelque chose de plus grand, est-ce que je suis capable d'y renoncer? Regardez versets 24 à 25. Paul dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Et Paul va donner ici des exemples qui étaient très parlants pour les Corinthiens. Pourquoi ? Parce qu'à Corinthe, on disputait les jeux ismiques. Ce n'était pas les jeux olympiques, c'était les jeux ismiques. Et ismique, ça vient de isme. Et isme, c'est une bande de terre entre deux grands territoires, en fait. Et Corinthe, eh bien, est située comme ça, il y a un isme. Et donc, on y faisait des jeux dans cette bande de terre. C'est devenu les jeux ismiques. Et c'était un pentathlon. Donc, on y disputait la lutte, la course, le saut, le disque et le javelot successivement. Et donc, c'était parlant pour les Corinthiens, cette idée du sport, hein, et notamment de la course. Donc, il prend cette première image, une course dans un stade. Et il dit, ils sont tous en train de courir avec un seul but en tête, c'est remporter le prix de la course. Donc, l'objectif, c'est devant. La concentration, c'est sur la ligne d'arrivée, c'est de franchir cette ligne d'arrivée. Et le but ici, quand on court, hein, c'est pas d'entrer en compétition les uns avec les autres, hein, mais c'est plutôt se fixer sur le but, le prix, et le prix, ben, c'est plaire au Seigneur et remporter ce prix qui glorifie le Seigneur. Paul dit, courez de manière à remporter ce prix. Il y a plusieurs manières de courir. Quand j'étais au lycée, quand on était en sport, il y avait plusieurs manières de courir. Peut-être que ça va vous rappeler certaines choses. Hein. Donc, il y avait ceux qui couraient, hein, mais dès que le prof ne les voyait plus, oh ben là, cool quoi. Hein. Parce qu'on était dans un grand parc boisé, avec plein de collines et de virages, et donc c'était tranquille. Hein. Il y en a d'autres qui couraient, mais c'était plutôt les trottinés, quoi. Hein. C'était pour la forme. Il y en a d'autres, ils coupaient dès qu'ils pouvaient. Hop, à travers les fougères, là, ils passaient, ils essayaient de gagner 2-3 minutes, hein, ni vu ni connu. Et puis, il y en a d'autres qui couraient sérieusement. Vraiment, ils avaient envie de faire un temps et réussir, essayer de gagner pour eux-mêmes. Et nos vies chrétiennes, elles peuvent aussi ressembler un peu à ça. Parfois, on court, mais en fait, non, on ne court plus vraiment. Parce qu'on a pu mis comme objectif de servir le Seigneur, de l'aimer, de lui plaire, de lui être agréable. Donc, dès qu'on peut, on marche. Parfois aussi, on peut être hypocrite. On court, mais quand on a le sentiment que les autres nous regardent. Et puis, dès qu'on est tout seul, là, on ne court plus. Hein, on court bien à l'église, mais la semaine, on ne court pas beaucoup. Après, d'autres courent, mais ils ne courent pas sérieusement. Ils courent, oui, je ne sais pas comment on pourrait dire, ils courettent. Et puis d'autres, vraiment envie de courir et fournir un effort et avancer, et essayer de lutter, essayer de remporter ce prix. Et les Corinthiens le savaient, il n'y a pas un sportif qui pouvait réussir, notamment les Jeux ismiques, s'il n'était pas strict et sérieux dans son entraînement, dans ce qu'il faisait. Il y a toujours un effort à fournir pour remporter le prix. Et c'est ce que Paul veut qu'on comprenne avec l'idée de remporter la course, de remporter le prix. C'est qu'il y a un effort à fournir, mais il faut viser le but, viser de remporter ce prix. Paul prend un autre exemple. C'est celui de ceux qui combattent. Peut-être qu'il y voyait l'idée de la lutte, hein, dans ces jeux ismiques. Il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence ». Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Quelles abstinences ! Aujourd'hui, il y a les Jeux Olympiques. Mais pour pouvoir être accepté aux Jeux Olympiques, il faut être un sportif de haut niveau. Donc, il faut être reconnu par un conseil, hein, un sportif, hein, qui reconnaît que la personne est vraiment un sportif de haut niveau. Ça veut dire qu'il a un entraînement régulier, il a donc des résultats par son travail. Il a une alimentation qui est irréprochable, un sommeil qui est réglé. Il bannit de sa vie tous les excès. Pas d'excès. Et c'était le cas pour les athlètes antiques qui se préparaient pour des jeux et qui s'abstenaient de la nourriture, certaines nourritures, s'abstenaient de vin, s'abstenaient de relations sexuelles aussi. Donc pour être vraiment irréprochable et pouvoir eh bien, remporter le prix, remporter le combat. Et les vrais athlètes, ils savent ce que ça veut dire abstinence. Mais ils sont libres, ils ont fait le choix d'être ce qu'ils sont. Ils pourraient très bien dire, bon, bah, allez, j'arrête tout ça, je jouis de la vie et de tout ce qu'elle offre, et puis je fais autre chose. Hein. C'est possible. Mais ils font le choix volontaire. À l'époque, la couronne, vous savez ce que c'était ? C'était une couronne d'olivier. C'était un rameau d'olivier qu'on tournait, on faisait un cercle ou bien comme un fer à cheval, hein, ça dépendait. Et voilà, c'est bien, tu as remporté la couronne. Et il repartait avec ce rameau d'olivier. Donc ce n'était pas d'or, ce n'était pas de chèque. Hein, aujourd'hui, c'est un gros chèque. Hein. Mais même tout ça, si on regarde les trophées, les médailles, les récompenses des sportifs actuels, enfin, je veux dire, tout ça, ça passe, hein, ça s'éteint. Dès que le sportif eh bien, arrive en retraite, petit à petit, voilà. Après, il n'est plus qu'une page sur Wikipédia, et puis c'est tout. Hein. On la consulte de temps en temps, il est oublié dans les cœurs, dans les mémoires. Hein. Donc, beaucoup d'efforts, beaucoup de luttes, quelques instants de gloire, hein, et puis après, il n'y a plus rien. Mais nous, Dieu dit, nous, on court pour un royaume qui est céleste, un royaume qui est éternel, une espérance qui est céleste. Et Dieu nous promet aussi une couronne qui est céleste et qui est incorruptible. Elle ne peut pas se détruire, elle est éternelle. Ça signifie que nos choix aujourd'hui sont en train de préparer notre éternité. Alors, je peux choisir de profiter au maximum de cette vie. Plaisir, jouissance, bien matériel, technologie, distraction, confort. Ou bien je peux faire certains choix, ou non, voilà, je vais m'abstenir de ça, c'est pas la peine. Je vais renoncer à cette liberté, voilà, je vais choisir un but qui est plus élevé. Paul dit, regardez versets 26 et 27, « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Et on sent ici une décision intérieure qu'il avait prise de remporter le prix, d'avoir la couronne plutôt que de jouir de tout ce que la vie pouvait lui donner. Et il avait des droits, il avait des libertés, mais il choisit d'y renoncer. Donc, en menant une vie 100% pour Christ, célibataire. C'est quelque chose quand même. Hein. Servir le Seigneur en se privant de nourriture pour éviter de choquer et même eh bien, en travaillant, s'il le faut, pour subvenir à ses propres besoins et ne pas réclamer quelque chose. Alors Dieu ne demande pas la même chose à chacun. On est tous différents. Mais sûrement, il y a des libertés auxquelles on pourrait renoncer. Dire, bah non, finalement non. Parce que eh bien, je vois autre chose que le Seigneur me montre et qui est plus important, qui compte davantage. J'aimerais conclure avec un exemple dans l'Épître aux Hébreux. L'exemple, c'est Moïse. Et ça se trouve en Hébreux, chapitre 11, et on va lire les versets 24 à 26. « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et j'aimerais qu'on considère cet homme qui avait tout pour être heureux. Il avait le confort, même le luxe, étant à la cour de Pharaon. Il avait la culture, l'enseignement. Il était enseigné à la cour des Égyptiens. Il avait la gloire, le prestige d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il avait certainement une princesse qui pouvait lui être préparée. Il avait vraiment tout. Aussi, on peut penser une position dans le royaume, dans cette cour d'Égypte. Mais Moïse refuse de jouir de tout cela. Et il est dit qu'il refusa son titre de fils de fille de la Pharaon. Il préféra s'identifier avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps, la jouissance du péché. Et quand on fait le choix de sacrifier une liberté, quand on le fait, c'est toujours parce qu'on se dit « mais il y a quelque chose qui est plus grand, qui est meilleur ». Moïse croyait en l'Éternel et il était convaincu que la cause de Dieu et l'amour pour son peuple, dont il faisait partie, était quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus gratifiant que tout le plaisir que pouvait lui offrir l'Égypte, tout le confort que pouvait lui offrir l'Égypte. Il a choisi de ne plus vivre pour lui-même, mais de vivre pour Dieu. Alors, eh bien, qu'on puisse aussi garder ça dans notre cœur et fixer nos yeux sur la rémunération céleste et puis faire des choix en fonction de cela pour la gloire de Dieu.